BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Il vient de lever 36 millions de dollars. Erwan Karodi, merci d'être avec nous. Vous arrivez tout juste, je le disais, de New York. Vous atterrissez. Il faut dire qu'il a... Vous avez un beau record à établir ici en France avec cette levée de fonds qui complète déjà une autre. On va rappeler Cyber Angel, c'est la première entreprise de cybersécurité de la French Tech 120. En tous les cas, c'est comme ça que vous définissez, c'est une belle définition.
On fait de la cyber, on fait de l'intelligence artificielle, on protège les grands groupes mondiaux en fait des grandes fuites de données et on est très fiers effectivement de faire partie de la French Tech.
Ouais. Vous êtes établi, peut-être rappeler, vous étiez venu nous voir il y a quelques mois, peut-être nous rappeler exactement ce que vous faites,
exactement.
Comment vous travaillez. On sait que la dernière fois vous aviez une belle prise de guerre, c'était le numéro 2 du FBI qui travaille avec vous, que là-bas vous nous expliquez, même si vous êtes français, vous faites partie de la French Tech, là-bas vous êtes américain, vous travaillez qu'avec des Américains. Expliquez-nous un peu le contexte dans lequel vous vous développez et après on reviendra sur Cyber Angel.
Pas de problème. Cyber Angel, ça détecte les fuites de données de grands groupes à travers la planète sur tout ce qui est potentiellement connecté à Internet. Vous voyez aujourd'hui dans la presse une grande fuite sur Marriott, de fuites de données sur Marriott, tous les utilisateurs des hôtels Marriott, les grands 100 millions d'utilisateurs également sur Facebook. Ces grandes bases de données qui fuitent aujourd'hui sont fuitées par négligence, par des prestataires, et dans ces deux cas de figure, par exemple, on aurait pu les détecter avant que ça arrive, avant que ça leur coûte des centaines de millions d'euros, avant qu'ils aient à faire des restructurations en fait, de leurs équipes. On détecte ces fuites de données avant que ça devienne des fuites de données qui vont leur coûter extrêmement cher, et c'est inévitable. Par construction, maintenant, les grands groupes font fuiter de l'information à travers la planète, puisqu'ils ont plus de périmètre à protéger. Le périmètre, maintenant, c'est le cloud. C'est les prestataires, c'est les objets connectés, les usines connectées. Et aujourd'hui, on est en France, on est en Europe, on est une société européenne et on est implanté fortement aux États-Unis. Ça fonctionne très bien. On travaille avec des très très grands groupes européens, le premier télécom américain par exemple, ou des grandes banques américaines qui ont besoin en fait de cette capacité de détection de fuite de données qu'ils n'ont pas aux États-Unis.
Et on va rappeler, en France, en Europe, vous travaillez aussi avec des grosses capilles, du CAC 40, vous travaillez avec Sanofi, de LVMH, L'Oréal, entre autres.
Plus de la moitié du CAC 40, oui.
Ouais. Comment est-ce que vous travaillez, justement?
C'est très simple, en fait. Déjà, on discute souvent avec... Alors, c'est marrant parce que...
Vous intervenez où, vous voyez, je veux dire,
ouais,
sur la chaîne.
Mais complètement.
Je veux dire, j'ai une information, et voilà, comment ça se passe?
Déjà, nous, c'est un beau laboratoire de l'agilité d'un grand groupe. Donc aujourd'hui, il y a plus de la moitié du CAC 40 qui travaille avec nous. L'autre moitié travaillera probablement un jour avec nous et bientôt. Mais on amène un problème qui est nouveau. On va voir les grands groupes, les grands patrons, souvent les CIO, donc les DSI, ou les patrons de sécurité informatique. Et on leur dit, il y a certaines informations très critiques qui fuitent quelque part sur la planète. Ça peut être une acquisition à plusieurs milliards, enfin de l'information confidentielle. Ça remonte au Chief Information Security Officer, la personne qui fait de la sécurité informatique, au DSI. Et souvent, parfois, ça remonte au PDG.
Oui,
voilà.
Oui.
Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas leur dire, un jour, on vous protégera. Regardez, on va faire un test ensemble. Et regardez, ces données, aujourd'hui, sont accessibles. On les trouve, on vous dit d'où ça vient. Et on vous donne toutes les informations pour les faire fermer. Et aujourd'hui, les PDG, ce que les PDG me disent, et on les voit régulièrement, les PDG du CAC 40, parce que ça les intéresse, parce qu'il faut qu'ils comprennent, lorsqu'ils font un business plan à 5 ans, la probabilité qu'il soit mis en cause, en jeu, que ces prévisions soient mises en cause par une grande fuite de données cyber qui peut les mettre à genoux.
Justement, où sont les points de fuite? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme un robinet d'information. Où sont les points de fuite?
La conception qu'on avait il y a 20 ans de la sécurité informatique, c'est on a notre société, on a nos données à l'intérieur, on crée une forteresse autour pour les protéger. Aujourd'hui, c'est complètement obsolète comme conception, puisque la donnée est déjà dehors. Aujourd'hui, la plupart des grands groupes ont déjà fait une migration vers le cloud, c'est-à-dire la donnée est en dehors de ce périmètre. Beaucoup d'informations sensibles sont aujourd'hui chez les prestataires, les third parties, qui détiennent de l'information sensible et qui ne savent pas se protéger comme les grands groupes. C'est également une deuxième énorme capacité de fuite de données. Et tous les objets connectés, aujourd'hui, toutes les usines sont connectées sur la planète. Et donc, tout ça, c'est des points de fuite potentiels. Donc aujourd'hui, le périmètre à protéger n'est plus du tout le même, voire le périmètre est mort. Il faut aller chercher ailleurs. Et c'est ce que fait Cyber Angel. On scanne massivement l'architecture d'Internet pour retrouver ces informations et les ramener à leurs propriétaires.
Mais par exemple, le cloud, là, je rencontrais un grand cabinet d'avocats français et qui nous disait, nous, on n'a pas le droit, pour des questions de compliance, on n'a pas le droit d'avoir des clouds américain, le cloud de Microsoft, le cloud. Non, et en même temps, les clouds français, ils ne sont pas suffisamment protégés. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Alors, le problème du cloud français, c'est qu'il n'est pas vraiment assez développé. Ouais. C'est qu'il y a un problème. Le cloud, c'est utile si c'est extrêmement utilisé et qu'il y a notamment des fonctions complémentaires, des propositions de valeur un peu complémentaires. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, il y a un retard par rapport à les trois leaders mondiaux, Google, Amazon et Microsoft. Voilà.
Oui, mais alors donc, c'est compliqué quand on est une entreprise française et qu'on ne veut pas travailler avec une technologie étrangère, entre guillemets, même si Microsoft est très implanté en France depuis longtemps. Hein.
J'ai bien peur que sur ce sujet-là, la course sur le cloud soit perdue par l'Europe. Et malgré tout, en fait, il y a ces trois grands acteurs, ces oligopolistiques, qui gèrent le cloud mondial, et pourtant, ça ne leur empêche pas de faire des erreurs. Sur certains de ces acteurs, ce que je ne peux pas vous dire les noms, ils proposent des serveurs de données complètement non sécurisés. Et nous, ça fait partie notamment de ce type de serveur-là qu'on va pouvoir trouver complètement ouvert sur la planète et qui partage de la donnée aussi sensible que, par exemple, pour un constructeur automobile, toute sa recherche et développement sur le véhicule autonome, hébergé sur un serveur cloud complètement ouvert. Donc aujourd'hui, ces nouvelles tendances, on ne peut pas se passer du cloud. Les grands groupes vont vers le cloud, mais aujourd'hui, ce n'est pas aussi protégé qu'on le croit.
Et là, vous savez qu'il y a tout un débat en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, sur est-ce qu'il faut ou pas accepter Huawei sur la 5G. Alors, je ne sais pas, je vous vois lever les yeux au ciel, mais c'est vrai que c'est un point très important parce que certains disent qu'on est au cœur des systèmes de sécurité avec la 5G. Est-ce que pour vous, il y a un vrai risque ou pas?
Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est au-delà. Alors, oui, il y a un vrai risque. Ouais. Mais de la même manière, c'est que si on travaille pas avec des Chinois, on va travailler. Enfin, l'Europe va travailler pas. S'ils travaillent pas avec les Chinois de Huawei, ils travailleront avec les Américains.
Non, avec des équipementiers Nokia européens.
Hein. Européens potentiellement. Mais en fait, là, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que de toute façon, Snowden a publié plein d'informations il y a une dizaine d'années. Tous ces équipements, de toute façon, servent à un moment ou un autre à collecter de l'information pour les grands États. Ouais. Voilà. Donc, on sait qu'effectivement, l'information, elle va fuiter. Les espions espionnent. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, c'est un combat entre États. Là, ce qu'on est en train de constater entre Huawei et les Américains, c'est que c'est un combat d'État. Et techniquement, en fait, les solutions chinoises sont très probablement beaucoup moins chères. La solution, c'est qu'elles sont aussi très efficaces. Mais derrière, en fait, c'est des combats d'État. Ouais. Et ce qu'on voit fuiter dans la presse, c'est un peu ce combat commercial derrière.
Erwan Karodi, est-ce que l'innovation, l'intelligence artificielle, vous êtes dans un métier, vous allez dire, où ça va extrêmement vite, hein, parce que vous devez même être devant, pour faire la course en tête, peut-être pour ça, et on y arrive, pourquoi vous avez levé autant d'argent. Mais là, votre métier va être complètement bousculé, là, de nouveau?
Alors en fait...
Avec l'intelligence artificielle, non?
Exactement. Alors en fait, nous, on a fait le pari dès le début d'avoir l'intelligence artificielle. Ouais. C'est-à-dire que...
On franchit des étapes.
Alors tout à fait. La cyber, aujourd'hui, est un métier qui existe depuis assez longtemps. Seulement, aujourd'hui, c'est, on peut dire un terme horrible, c'est massifié. C'est-à-dire, le problème, et aujourd'hui, tout est connecté. Donc, c'est un problème de masse, de grand nombre. Et quand on veut faire une opération chirurgicale, c'est possible, mais en fait, aujourd'hui, le problème cyber, c'est gérer des grandes masses de données. Et en fait, aujourd'hui, ces grandes masses de données ne servent à rien si on n'a pas l'intelligence artificielle derrière pour filtrer ces informations. Donc, oui, ça change, non pas le métier de Cyber Angel, parce que Cyber Angel, dès le début, on s'est mis là-dedans. Et aujourd'hui, j'ai 40% de mes équipes, c'est des ingénieurs et de la data science. Voilà, c'est quelque chose de crucial. Et d'ailleurs, ça nous fait faire la course en tête pour l'instant. Mais sans cette capacité-là, la course sera perdue, surtout contre les attaquants. Parce que les attaquants ont les mêmes armes de capacité technologique d'intelligence artificielle. Et en fait, c'est un peu comme à l'époque du nucléaire, la course à l'armement. C'est la course à l'armement nouvelle, de V3, si on veut dire, ou V2, ou V35. La capacité à celui qui sera le mieux équipé en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, Cyber Angel, on est très très bien positionné. On est largement en avance, puisqu'on arrive à avoir 1 milliard de nouveaux documents tous les jours. Et parmi ce milliard, être capable de dire telle information pourrait faire tomber tel grand groupe du CAC 40 ou tel grand groupe des États-Unis.
Mais on voit, là, il y a des cyberattaques partout. On a vu Bouygues Construction la dernière, mais avant, il y a eu un tas d'autres groupes. Il y a eu Saint-Gobain et encore beaucoup d'autres, et on ne les connaît pas toutes, hein, à mon avis, de ces attaques. Ça se multiplie, il faut s'attendre à ça.
Alors, déjà, vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg. Ouais, Cyber Angel, le travail du Cyber Angel, c'est de détecter des fuites, mais aussi on aide nos clients quand ils ont des problèmes. Donc là, vous parlez de certaines attaques. Nous, on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, dont on ne peut pas parler. Mmh. Donc je peux vous dire que c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Et alors, je suis désolé de vous le dire, ce n'est que le début. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout est tellement connecté, c'est facile pour un attaquant d'aller chercher de l'information qui est fuitée par négligence, que plutôt que d'aller braquer une banque, ils vont aller braquer les systèmes d'information de la banque. Ouais. Voilà. Et donc, c'est la grande tendance. Ce n'est qu'un début. Et en plus de ça, comme les grands États, on parlait de la guerre commerciale à travers le monde, il y a une guerre, en fait, cyber qui a lieu aussi à travers le monde. Les entreprises sont un peu prises, en fait, comme dommage collatéral de cette guerre cyber qui a lieu, en fait, autour de nous.
Le 36 millions de dollars, pourquoi faire ? Il y avait déjà 10 millions de dollars avant.
On a levé 52 millions de dollars.
Voilà, 50 millions, oui.
Ouais. Trois choses. La première, être continuer l'expansion aux États-Unis. L'expansion aux États-Unis, c'est important. Comme vous dites, on a créé l'équipe de toutes pièces. Aujourd'hui, on a des très beaux noms qui travaillent avec nous, aussi bien des employés américains et européens que j'adore, qui font l'âme de Cybele Angel. Mais il faut continuer à grossir. Il faut être solide. Il faut aller embaucher les talents. Et aujourd'hui, aux États-Unis, la concurrence, c'est pas les petits, c'est pas certains groupes européens. Aujourd'hui, c'est des grands groupes en termes d'emploi. C'est Google, Facebook, Amazon. C'est contre eux que je me bats pour les talents. Donc ça, première chose, expansion aux États-Unis, principalement commercial et marketing. Deuxièmement, en fait, faire des nouveaux partenariats. Aujourd'hui, à travers le monde, on a des clients au Japon, on a des clients au Moyen-Orient, on a des clients partout en Europe, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre. Ça va se faire en vente directe et aussi en vente avec des grands partenaires à travers la planète et ça marche très bien. Toute l'Allemagne, par exemple, on couvre que par des partenaires avec qui on s'entend très bien, qui font beaucoup plus d'argent que nous et ils sont très contents. Et troisième axe, la recherche et développement. Surtout ne pas s'arrêter sur la capacité d'innover en intelligence artificielle.
Et là, vous travaillez avec des ingénieurs français, des ingénieurs américains. Où est-ce qu'en ce moment ça se fait ?
Cybele Angel est une société française et le gros de nos forces sont aujourd'hui à 80% localisées en France.
Ouais.
L'ingénierie est à 100% localisée en France. On ne changera pas ça. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a des talents qui sont exceptionnels en France et qui sont très forts, en fait. Et deux, le sourcing, en fait. Le fait d'avoir cette capacité technique et en plus de ça, cette capacité à les recruter, c'est une grosse différence avec les États-Unis. Sur la partie commerciale, je veux dire, on se bat pour embaucher les bons commerciaux aux États-Unis. Si je devais embaucher une équipe commerciale aux États-Unis, je me battrais contre les ingénieurs qui sont chez Google ou chez Facebook.
Oui. Est-ce que vous estimez que au niveau européen, c'est quelque chose qui... Enfin, on peut avoir un écosystème, notamment sur la cybersécurité, sur l'intelligence artificielle, qui se fasse au niveau européen. C'est toute la question en ce moment. Ou à votre avis, ça doit rester français?
Alors, il y a une vraie question de souveraineté là-dessus. Pour le coup, je vous ai dit, on a discuté sur le cloud. Et je pense que sur le cloud, ça fera pas plaisir à certains, mais je pense qu'on a perdu la
bataille. Ah ouais, on a compris, on a envoyé le message, oui.
Mais l'idée, c'est que sur tout ce qui est intelligence artificielle dans la cyber, aujourd'hui, Cybele Angel est en train de créer un leader européen en vendant à travers le monde. Et je pense qu'on a une vraie carte à jouer là-dessus. Je pense qu'il va falloir très rapidement que je me rapproche de M. Breton à l'Union européenne.
Oui, c'est pour ça que je posais la question. Ce matin, on en parlait, juste avec un nouvel État.
C'est dans le calendrier, en fait. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Il ne faut pas qu'on perde cette guerre.
Ouais.
La guerre de l'intelligence artificielle en Europe, pour la cyber, Cybele Angel peut créer un champion européen, voire mondial.
Ouais, la France, elle vise trois champions mondiaux dans la cybersécurité. Donc il y a vous, évidemment, c'est les autres.
J'ai ma shortlist en tête.
Voilà, d'accord.
Il y a des très belles boîtes, en fait, en
d'accord,
France.
D'accord, ça veut dire, à mon avis, il y a des acquisitions qui se préparent, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Enfin, nous laisser sous-entendre, malgré vous. C'est ça, oui.
Il y a des magnifiques sociétés en France. La France est très forte pour pousser des jeunes pousses à l'état de venture, ce qu'on appelle à l'état de où on peut lever 10 millions.
Ouais, ouais.
En revanche, quand on passe à l'étape d'après pour lever 20, 100, 200, 200 millions d'euros ou de dollars.
Ça s'arrange.
Et là, il va falloir le faire au niveau européen. La levée que je viens de faire, elle est faite avec des entrepreneurs magnifiques qui sont basés aux US, mais également des grands groupes financiers européens, un Hollandais et un Anglais. Donc on est en train de créer, en fait, cette espèce
de consortium.
Un Anglais,
ça c'est bizarre. Vous avez un Anglais chez vous ?
On a des fonds d'investissement hollandais, anglais et français aujourd'hui.
Oui, BPI France notamment. Merci beaucoup, Erwan Karodi. La prochaine fois que vous avez racheté une autre entreprise, vous venez nous voir. Hein. Faites un stop ici, on the way to New York. Merci beaucoup d'avoir été ici. Le patron donc, de Cybele Angel, qui a plein de projets sur la cybersécurité, même si c'est un peu inquiétant ce que vous nous racontez. Dans un instant, justement, on va repartir aux États-Unis tout en restant dans les studios de BFM Business, bien sûr. Mon invité, c'est Jean-Éric Brana. Il est spécialiste des États-Unis. Il va nous décrypter un peu cette primaire démocrate dans le New Hampshire. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Il connaît très bien les États-Unis. Jean-Éric Brunard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conf à Paris 2. Vous connaissez très, très, très bien ce qui se passe. Alors, évidemment, on va parler de cette primaire démocrate. Dans le New Hampshire, il y a eu celle de l'Iowa. Maintenant, c'est le New Hampshire. D'habitude, dans le New Hampshire, c'est un peu, je veux dire, la primaire qui clarifie un peu le débat. Ben là, pas du tout. Alors, on a vu, donc, c'est Bernie Sanders, sénateur, qui arrive en tête. Il était chez lui, donc c'était un peu plus facile.
Juste à côté de chez lui.
Juste à côté de chez lui, oui. Et puis, par contre, on voit l'effondrement de Joe Biden. Vous en avez... Comment est-ce que vous jugez ce qui s'est passé hier soir?
Alors, par contre, on va prendre ce qui marche bien.
D'accord,
on va commencer par là.
Oui, il n'y a pas eu de bug.
Il n'y a pas eu de bug. On a les résultats à temps et on a même des résultats assez précis puisqu'on en est à 90% dans le dépouillement. C'est pas mal. Je veux dire, au matin, qu'on puisse arriver avec des résultats puisqu'il y a une semaine, on le rappelle, c'était pas la même chose et c'est vrai que ça avait démarré assez mal. Mais vous avez raison, on n'a pas le duel qu'on a d'habitude avec le New Hampshire puisque l'Iowa et le New Hampshire nous donnent à peu près la direction de ce qu'il va y avoir d'habitude et puis on sait quels sont les deux grands qui émergent, généralement c'est plié, les autres font leur bagage
pour Hillary Clinton, Obama
c'est toujours comme ça et cette fois-ci par contre on a donc un pack qui s'en va sur la suite de la course, rappelons quand même qu'il y a 50 états aux États-Unis donc au moins 50 courses, qu'en plus il y a 6 territoires qui se rajoutent, plus les démocrates de l'étranger, ça fait donc 57 courses en réalité à suivre pendant cette campagne. On n'en est qu'à la deuxième, ça c'était pour préciser. Et c'est vrai qu'on a plusieurs candidats avec Sanders qui est en tête, Buttigieg qui est en tête, puisque c'est lui qui gagne en nombre de délégués. Sanders qui est donné désormais favori, puisqu'il serait sur une meilleure lancée pour les courses suivantes. Mais derrière, va falloir compter sur Warren, sur Klobuchar, sur Biden, qui sont toujours là et qui ont toujours leur chance quasiment intacte.
Mais alors, quand même, certains parlent de résultats humiliants pour vice-président Joe Biden. Vous dites qu'il a encore ses chances?
Ah mais je parle aussi des résultats humiliants, hein. On ne va pas dire le contraire.
Ouais.
Quand
grande
on
claque.
Se prend une grande claque dans l'Iowa et plus qu'un camouflet, une humiliation effectivement dans le New Hampshire, il faut appeler un chat un chat. Ça ne veut pas dire pour autant que ses chances sont nulles ou qu'elles ont été annulées. La course qui va se poursuivre désormais...
Il a fait 8%.
Pardon, oui,
il a fait 8%.
Mais quelques seuls pourcents. En réalité, c'est tout petit. Hein. Ouais. C'est 1,3 million de personnes qui est la population de New Hampshire sur 330 millions d'habitants. Et c'est 94% de blancs. On va maintenant dans l'Amérique diverse, dans l'Amérique, dans la Grande Amérique, avec des États beaucoup plus grands, notamment le Nevada et la Caroline, qui sont les deux plus grands, et surtout le super mardi du 3 mars, dans lequel 1300 délégués seront à gagner. Rendez-vous compte, il n'y avait qu'une vingtaine cette fois-ci.
Aussi la question de savoir un peu quel... Ah non, Pete Buttigieg, parce que c'est un peu le nouveau chouchou.
C'est le
ça va être
chouchou.
Bon pour lui, non? Il va pouvoir rassembler un peu plus d'argent.
On va en profiter tant qu'il est là, puisque je crois qu'il ne va pas être là très longtemps.
Ah bon? Vous engagez,
je ne suis pas très gentil, il n'aimerait pas que je dise ça, mais en réalité, on était dans une Amérique qui s'écoutait dans le nord des États-Unis, très blanche, comme je le disais à l'instant. Ça va être plus compliqué quand on va aller dans le dur, dans le sud, en particulier parce que il est gay et que cette question-là va être désormais sur la table. C'était pas un sujet dans le nord, dans lequel, bien entendu, on n'a pas à remettre en question l'orientation sexuelle des uns et des autres. Mais dans le sud et dans des milieux très chrétiens,
il a eu un mariage chrétien. Hein, donc,
oui, en plus il est chrétien. Oui, vous avez raison. Oui. Mais les chrétiens remettent en cause ce mariage dans le sud.
Côté très conservateur.
Il y a 5 ans, c'était encore inscrit dans les constitutions de certains États, le fait qu'il n'y ait pas de mariage homosexuel. Ouais. Donc c'est vrai que ça va vraiment devenir une question qui va peser, malheureusement pour lui, dans la
suite.
Donc
vous pensez qu'il existe. Michael Bloomberg, quand est-ce qu'il compte, il va rentrer après le 3 mars
Super
Tuesday.
C'est ça.
Et
Super Mario, on vient de dire aussi, qui va arriver en disant bonjour, c'est moi, avec mes millions, je veux pouvoir faire la surprise. Et on ne sait pas. Désormais, c'est vrai que le jeu est tellement brouillé que Bloomberg pourrait émerger. Je faisais partie de ceux qui pensaient que non jusqu'à maintenant. Mais je vais être un peu plus prudent parce que c'est vrai que les sondages ont montré une montée de Bloomberg. En réalité, les sondages, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils nous montrent que les démocrates ne sont pas contents de ce qu'on leur présente. Ils ne sont pas contents des candidats. Ils se choisissent une fois Buttigieg en Iowa, une fois Buttigieg et Klobuchar, je parle des modérés là, bien sûr, dans le New Hampshire. Et ils partagent tout ça avec Sanders en sanctionnant Warren et Biden qui faisaient normalement partie des très grands favoris.
Oui, justement, ce que vous avez dit, avis, c'est important, Jean-Éric Brana, c'est-à-dire que, un peu pour la première fois, les démocrates, historiquement, ils sont au centre. Dans la vie politique américaine, je veux dire, il n'y a pas d'extrême gauche, quoi. Et même le mot socialiste était vécu comme voulant dire extrême gauche. Là, on voit que ce soit Bernie Sanders, même Joe Biden, on dit qu'ils sont socialistes. Il y a vraiment une gauchisation, entre guillemets, hein, bien sûr, des démocrates.
Pas pour Joe Biden, oui, qui revendique Biden. Vraiment oui, son étiquette de modéré. Oui. Pour Bernie Sanders, oui, mais il est socialiste, il le dit, je suis socialiste démocrate.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit virage à gauche?
Mais on pensait, alors depuis hier soir, on le pense un petit peu moins, puisque c'est vrai que le New Hampshire a mis un coup d'arrêt. Sanders arrive, il est à 25-7, je crois, au dernier comptage, à 87% du dépouillement. Oui. C'est pas ce qu'il a fait il y a 4 ans, souvenez-vous, quand il a raflé 60% des voix, il n'y avait que 2 candidats et demi, faut dire. Mais les voix se sont éparpillées. Elles se portent plus systématiquement sur le candidat très progressiste. Et quand on additionne les très progressistes et les modérés, les progressistes ne font que en gros 40% cette fois-ci. Donc il y a un vrai tassement. On va voir sur la suite.
Oui, il y a Elizabeth Warren dont on n'a pas parlé aussi bouge. Avec Gabriel Zucman qui est un peu l'économiste qui l'a porté, que je recevrai du reste la semaine prochaine. On voit quand même que la montée des inégalités est un thème très fort aux États-Unis.
Bien sûr.
Il y a même la question éventuellement d'un impôt sur la fortune, cette espèce de gros mot jusqu'à présent aux États-Unis. Vous y croyez pas. Depuis hier soir, vous trouvez que c'est moins vrai?
Je crois que Warren va revenir aussi. Vous voyez, si on va jusqu'au bout, comme Biden, je crois qu'elle a eu une contre-performance en Iowa et dans le New Hampshire. Je crois qu'elle a des vraies chances, par contre, sur le super mardi. La Californie, le Texas, surtout le Massachusetts, qui est son état, bien sûr, pourrait relancer Elizabeth Warren. Donc, je crois que c'est pas terminé. Elle a des vraies propositions, vous l'avez dit, notamment son impôt sur la fortune, 2% ou 3%. Mais alors, c'est à des seuils très élevés, ça ferait rire tous les Français, bien entendu. Mais c'est un début d'impôt sur la fortune. Elle a surtout un plan contre les GAFA, contre ce monopole qu'ils exercent sur nos vies. Et elle a eu l'avantage d'apporter ce débat-là dans la campagne. Donc elle a, pour le coup, des propositions, elle, assez innovantes par rapport à d'autres candidats. C'est aussi, je crois, ce qui va la faire remonter assez rapidement.
Alors, si on essaie de voir un peu votre trio de tête, ça serait quoi? Parce que vous nous dites...
Pour l'avenir?
Oui.
Alors je reprends les trois anciens, ceux qu'on avait dès
c'est
le
ça.
Départ.
On est bien
Bernie
d'accord,
Sanders, Elizabeth Warren et Joe Biden, qui je crois, sur la durée, sont ceux qui vont...
Et Michael Bloomberg, non.
Mais Michael Bloomberg est la grosse énigme pour moi. Moi, je crois, alors peut-être parce que j'en ai pas envie, qu'on n'achète pas une élection, et que c'est vrai que Michael Bloomberg, actuellement, il gagne des pourcentages de sondages avec des chèques. 270 millions déjà de dépensés, c'est gigantesque. Et ça va pas s'arrêter là. Mais est-ce que ça va se transformer en voix? Pour l'instant, rien ne le prouve. Donc, on va attendre ce 3 mars. Et c'est vrai qu'on se reverra peut-être en se disant c'est absolument fabuleux ce qu'a fait Michael Bloomberg. Ce serait également inquiétant, parce que ça voudrait dire que les ultra-milliardaires, désormais, pourraient acheter leur ticket d'entrée à la Maison-Blanche.
Ça veut dire qu'on a Donald Trump, ultra-milliardaire du côté républicain.
Mais il n'a pas gagné sa place avec des chèques. Il a gagné sa place avec des places dans les premières pages des journaux. Parce qu'on parlait de lui à coup de provocation, à coup d'invective, à coup d'insulte. C'est une autre technique qu'il a fait mettre sur la première place.
Les démocrates ont une chance de le battre ou pas?
Je le crois toujours aujourd'hui. Je crois qu'effectivement la division est très forte. L'inquiétude, elle est venue la semaine dernière pour le camp démocrate parce qu'il n'y avait pas de participation. On s'était dit donc que finalement le non à Donald Trump ne marchait pas. Aujourd'hui, la participation est très forte. Donc si ça continue ainsi, effectivement, si la participation continue à monter, Donald Trump aura assez peu de chances de réitérer l'exploit de 2016.
Oui, dernière question, est-ce que le problème des démocrates, c'est que finalement, c'est un peu comme le Parti socialiste en France, ils n'ont pas su se transformer peut-être?
Ah, absolument, vous avez complètement raison. Oui. C'est vraiment le gros problème des démocrates qui ont eu comme ligne politique tout sauf Trump, qui ont fait de l'opposition systématique, jusqu'à nous raconter par exemple qu'ils ne travaillaient que 2 heures par jour ou qu'ils se levaient pour tweeter. Ça n'avait aucun intérêt en réalité pour la bonne marche du pays. Et ça, les électeurs s'en sont lassés. Aujourd'hui, il faut proposer autre chose.
Et donc, la suite le 3 mars. Merci beaucoup, Jean-Éric Branard, de ce décryptage sur cette primaire démocrate, la deuxième. Et il reste à suivre donc 55 autres, si j'ai bien retenu,
exactement.
Parce qu'il y en a 57 au total. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Justement, dans un instant, c'est un ex-socialiste qui sera avec nous, ex-ministre. Maintenant, il se veut entrepreneur équitable. Arnaud Montebourg est notre invité d'ici une poignée de secondes.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
On est déjà en train de discuter de refaire le monde avec lui, Arnaud Montebourg, bonjour.
Bonjour Edwige.
Merci d'être là, ancien ministre du redressement productif, ancien ministre de l'économie, et donc maintenant patron de Bleu Blanc Russe, et puis de La Mémère, on va en dire. Mais juste un mot d'économie, là, je vous voyais pendant le journal, en train de regarder ce qui se passe du côté d'Alstom, un de vos dossiers emblématiques.
Ah ben c'est sûr, je préfère qu'Alstom rachète plutôt qu'on vende Alstom. Et d'ailleurs, on serait assez bien avisé. Et le gouvernement pourrait le faire, il en a les ressources, les moyens, j'allais dire, techniques et intellectuels, de racheter la partie que General Electric est en train de revendre, qu'il avait capturée d'Alstom, et notamment tous les îlots conventionnels et les turbines Arabelle qu'on installe au pied des centrales nucléaires. C'est un chiffre d'affaires d'un milliard, il pourrait parfaitement organiser le rachat et reconstruire un pôle énergétique industriel national que nous n'avons plus, sur les turbines, les renouvelables, et notamment toutes les énergies d'avenir, les réseaux, on pourrait reconstruire ça. Et je demande au gouvernement, puisque vous me donnez la parole, merci, je l'ai déjà dit, j'ai croisé Bruno Le Maire, je lui ai dit, faites ça, c'est ce qu'il faut faire maintenant, reconstruire une capacité de production industrielle en matière énergétique sur les énergies renouvelables d'avenir. L'hydraulique, on était quand même le leader mondial des turbines hydrauliques, avec l'usine de Grenoble. Elle est partie et maintenant General Electric est en train de la recéder certainement à des Chinois. Franchement, bravo. Alors là, il y a l'occasion de se refaire.
Donc d'accord, donc c'est l'occasion à saisir. Vous êtes juste, puisque vous parlez d'énergie renouvelable, vous êtes inquiet de ce qui se passe du côté d'Engie? Vous avez peur qu'il se passe un démantèlement quelconque ou pas? Avec la démission ou éviction d'Isabelle Kocher
Je dépersonnaliserai le débat. Stratégie qui avait été fixée par Mme Kocher était juste. Je crois qu'il y a eu des problèmes d'exécution. Oui. Je crois que c'est surtout ça. Mais la stratégie de mutation, elle était finalement la feuille de route de M. Mestrallet, si j'ai bien compris. Donc maintenant, c'était sa feuille de route quand
il y avait la vente du GNL, donc ce qui est quand même un des gros points justement.
Certes, mais enfin c'était quand même la feuille de route sur laquelle il avait engagé la mutation de GDF Suez, avec évidemment des mises en œuvre qui apparemment n'ont pas satisfait le conseil d'administration. Donc à voir quels seront les choix de l'État actionnaire de ce mastodonte industriel très important et sur lesquels ils vont faire des arbitrages. Donc on verra la suite.
Mais du reste, Elisabeth Borne a dit qu'il y aura sans doute des réorganisations. Pas de démantèlement, de réorganisation. Alors, Arnaud Montebourg, on vous avait vu avec les miels et les lavandes et les amandes. C'était Bleu Blanc Russe.
Et ça continue, la compagnie des amandes, ça continue, évidemment. Voilà. Bleu Blanc Russe a fait une très belle année, sa première année pleine 2019. 415 000 euros de chiffre d'affaires à mon compte de résultat. Je vais essayer de mettre l'entreprise, c'est sa première année pleine, donc sa deuxième une année et demie. Je vais essayer en 2020 de la mettre à l'équilibre et on aura une entreprise qui fonctionne avec une très belle croissance, avec un appétit sur le miel équitable qui rémunère l'apiculteur, qui repeuple la France et augmente le niveau de pollinisation. C'est bleublancruche.fr, madame Edwige.
Absolument, tout à fait. Et moi, c'est Edwige Chevrillon, .com. Vous savez, il faut faire attention. La Mémère, deuxième sujet, deuxième entreprise équitable. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais ça part du même principe, c'est-à-dire c'est d'aller travailler avec des paysans, des agriculteurs qui produisent et leur donner les moyens de vivre, tout simplement.
Partager la valeur et la richesse, c'est commencer par s'associer avec le paysan et finalement rémunérer là où se trouve le travail. Ce qui est le contraire de ces contrats d'industrie agroalimentaire qui payent ou payent pas selon les vicissitudes du marché et qui ont contribué à appauvrir l'agriculture française, la faire disparaître, la mener au désespoir. On a tous en tête le très beau film poignant joué par Guillaume Canet, d'ailleurs dans le rôle principal Au nom de la terre d'Edouard Bergeon, qui raconte l'histoire de la destruction économique de familles parce que on a abandonné dans notre société ceux qui occupent la fonction nourricière. On ne s'en est pas occupé. Et maintenant, on découvre les dégâts. Les dégâts dans tous les sens économiques, moraux, politiques et également environnementaux.
Et du reste, on voit aussi qu'avec les écologistes, certains, un peu des jusqu'au boutistes, ils sont en train de montrer du doigt. Enfin, en tous les cas, il y a un sentiment terrible du côté des agriculteurs qui ont l'impression qu'on les rend responsables de tous les maux d'aujourd'hui.
Bah, peut-être pas tous les mots quand même. Ils sont.
Ah non, mais je sais pas.
C'est vrai que le modèle sur lequel on a construit la croissance de l'agriculture française est une impasse aujourd'hui. Ouais. Pourquoi ? Parce que face à la mondialisation, le paysan français maintenant n'a plus la politique agricole commune pour le protéger. Il est face à des exploitations de plusieurs centaines de milliers d'hectares avec des niveaux technologiques très élevés qui n'existent pas dans la structure foncière que nous avons dans notre France bocagère. De tradition de polyculture familiale à taille humaine, et donc le niveau d'emploi agricole n'a aucun rapport avec notre concurrence mondiale, donc il va falloir faire muter l'agriculture et améliorer la part intégrée dans le processus de production de la matière première agricole de transformation. Mmh. Et c'est ce que nous faisons avec la MMR. Et on
alors,
dit.
Alors, la MMR, c'est
mais
quoi
non, mais qu'est-ce que
Il y a pas mal d'auditeurs et téléspectateurs qui disent mais c'est quoi la MMR ?
Eh bien, c'est une marque équitable.
C'est pas moi. Hein.
De glace. Non, certainement pas. C'est une de glace 100% bio fabriquée par le paysan à la ferme. Le paysan qui fabrique du lait bio pour sa coopérative va en prendre une partie, le transformer à la ferme lui-même en glace sous la direction technique d'un meilleur ouvrier de France, oui. David Vesmael, qui a créé la glacerie Paris. Ce sont des glaces extraordinaires. Et cette recette, il va former chaque et encadrer techniquement chaque éleveur laitier qui va fabriquer la glace à la ferme.
C'est une comment elle va être vendue ?
Ah ben nous, on s'en occupe, elle entre chez Monoprix, nous avons obtenu le référencement,
ouais,
et je remercie Monoprix, j'ai eu les dirigeants de Monoprix qui nous soutiennent et je les en remercie. C'est une glace 100% bio, aujourd'hui le marché de la glace est 1 milliard en France. Vous avez essentiellement des glaces industrielles, Nestlé, Unilever, Häagen-Dazs. D'ailleurs, la plupart de ces marques Unilever ou Nestlé ne sont pas fabriquées en France. Ce sont des marques avec des produits chimiques et des E. Là, il y a zéro E, il n'y a pas de E et d'additifs alimentaires, pas de produits chimiques, tout est naturel, et y compris le texturant qui donne la solidité à la glace. C'est des algues marines, des extraits de glace d'algues marines, de la farine de lin, c'est très intéressant. Et ça tient, c'est mieux que les produits chimiques de l'industrie de la glace.
Et il y a des parfums ?
Ah, il n'y a pas des parfums, il y a des fruits. Il y a la vanille. Il y a le café, le chocolat, la fraise et la framboise. Alors la fraise et la framboise viennent d'Auvergne.
La vanille, c'est pas un fruit, Arnaud Montebourg.
Ah, c'est un fruit. C'est un très beau fruit d'une plante merveilleuse. Et c'est un goût extraordinaire, préféré des Français. Malheureusement, nous la faisons venir de Madagascar parce que nous n'avons pas trouvé encore la vanille dans nos territoires d'outre-mer. Mais ça va venir.
Ouais. Voilà. Avec le réchauffement climatique, peut-être qu'on pourra le trouver en France bientôt. Mais ça, c'est un autre débat. Donc là, vous appuyez sur combien d'agriculteurs ?
Pour l'instant.
Et puis c'est
nous avons
ultra court. Comment vous faites ?
Ouais. Eh ben, pour l'instant, nous, c'est vrai que c'est la recette du circuit ultra court, c'est-à-dire que le lait vient des prés et des vaches. Il est transformé sur place. Nous installons des containers que nous avons recyclés d'ailleurs et que dans lesquels nous avons installé des laboratoires de fabrication de glace tout près, un stockage pour la surgélation dans la stabulation, à côté de la stabulation. Ça permet d'avoir toutes les activités rassemblées
agricoles. Mais il y a l'investissement nécessaire qu'il finance.
C'est nous qui finançons.
C'est vous qui financez.
L'agriculteur ne s'endette pas.
D'accord.
Nous protégeons l'agriculteur de son pire ennemi, la dette. Mmh. Parce que quand vous n'avez pas les revenus, il faut quand même rembourser le prêt à la banque. Mmh. Et surtout, nous l'associons au partage des revenus. 51% pour lui et 49% pour nous. C'est-à-dire que le paysan est l'actionnaire. Là, c'est pas la grande industrie de la glace. Chaque atelier
et combien
associe le paysan à nos efforts.
Combien d'agriculteurs, au début, vous commencez petit
Nous commençons avec la première ferme. Nous sommes en train de fédérer les suivantes. Nous avons déjà, dans toute la France, nous souhaiterions mailler, en quelque sorte, nous voudrions presque un agriculteur, un éleveur laitier par département pour pouvoir couvrir toute la surface du territoire. Parce que c'est de la vente locale autour de la ferme et de la vente nationale à travers la grande distribution dans les métropoles.
Donc, il faut
par
deux réseaux de distribution, en fait. Il faut un qui soit régional, enfin, ou local.
Et local. Puis,
oui.
Local.
Oui.
Local.
Mais Monoprix, par exemple, qui vous a déjà dit banco, très bien, mais il va venir comment chercher les
glaces ? Ah ben,
c'est
nous qui nous en occupons.
Ah, oui,
nous déstockons, nous achetons le stock. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous rémunérons mieux le paysan. Je voudrais vous donner les prix.
Ouais.
Le prix du lait conventionnel est de 35-36 centimes. Pendant la crise 2015, on a vu les agriculteurs vider leurs tonnes à lait dans les champs du Mont-Saint-Michel. C'était terrible, c'était des faillites en série, c'était 30 centimes. Aujourd'hui, il est un peu remonté. C'est qui le patron qui est une première marque équitable?
Il est venu me voir là, il y a quelques temps. Là.
Mais nous lui tirons notre chapeau parce que dans l'univers des marques équitables, il a été pionnier, il a ouvert un chemin et pour nous, il y a une sorte de d'amitié entre les marques équitables. Plus on sera nombreux, plus on révolutionnera l'agriculture qui consiste à associer le consommateur aux efforts du producteur et de l'agriculteur. Donc, c'est qui le patron? Il rémunère à 39 centimes. Fair France, qui est un autre lait équitable, c'est 45 centimes. Nous, nous rémunérons à 80 centimes.
Ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que... de lait que dans une brique de lait.
C'est un pour un et demi. Donc un litre de lait, ça fait un litre et demi parce que vous rajoutez les ingrédients, de la crème, elle aussi issue de la ferme. Donc ça donne presque un pour un. Donc dans chaque exploitation, on va fabriquer entre 100 et 150 000 pots. De glace, la même air.
Vous êtes allé voir chez Édouard Leclerc, les Alexandre Bompard chez Carrefour, je sais pas, pour avoir des grandes discussions.
Nous sommes en discussion avec d'autres enseignes.
Système U, par exemple.
Tout cela est en cours de discussion, donc pour l'instant, je n'ai pas de.
Et qui finance cette aventure?
D'informations à donner. Pardon?
Qui finance cette aventure?
Nous sommes associés avec une société franco-japonaise qui, il y a 50 ans, a importé au Japon le pain français et qui continue à le faire 50 ans après et qui ont décidé d'investir dans la gastronomie française, dans la qualité. Et il est vrai que les glaces La Mémère sont des glaces exceptionnelles par l'effort des recettes et du haut niveau professionnel du meilleur ouvrier de France, maître glacier, qui est David Vesmael, qui va enseigner à tous nos éleveurs l'art de fabriquer de la glace. Donc c'est l'alliance des paysans et des ouvriers. Les meilleurs ouvriers de France avec les meilleurs paysans de France.
C'est un projet qui, vous espérez une rentabilité, quelque chose?
C'est un projet qui, pour nous, on espère avoir très vite des résultats. Et d'ailleurs, nous considérons que dans la mesure où c'est pas le paysan qui porte le risque, lui, il apporte son travail et ses efforts de formation et de, j'allais dire, même de reconversion, parce qu'il apprend un nouveau métier. C'est très important. Il passe de l'agricole à l'agroalimentaire avec toute la rigueur liée à l'hygiène, au parcours, c'est très important. Et ça, c'est son apport. C'est un apport très important. Il nous apporte aussi son enracinement, son histoire, sa géographie, et puis son amour des animaux. Parce que quand on a des vaches qui donnent du lait bio, on pousse pas ces vaches. On les respecte, elles vont pâturer.
Et on leur donne un prénom toujours féminin, du reste, pour vous dire.
Puis ce sont des vaches.
Oui, ce sont des vaches.
Ce sont des vaches, ce sont pas des taureaux.
Oui. Oui, mais souvent on appelle des taureaux. Enfin, on va pas rentrer là-dedans, mais vous savez que c'est plus compliqué que ça. Est-ce que vous vous dites quand même, vous avez lancé le mouvement Made in France, et à un moment ça a fait sourire beaucoup de gens, quand vous voyez effectivement avec votre marinière, lorsque vous étiez ministre du redressement productif, vous avez été un des premiers, pour pas dire le pionnier, du moins au niveau politique, à dire que le Made in France était important. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites quand même, bon d'accord, je m'en ai pris plein la gueule, mais finalement j'avais raison?
Mais je m'en suis pas pris plein la figure, j'ai eu quelques ricanements.
Beaucoup d'incompréhension.
Mais non, mais j'ai eu quelques ricanements de toujours les mêmes, des salons parisiens. Mais franchement, quand on est au gouvernement, on s'en fiche, salons parisiens. Ce qui compte, c'est quand même comment, finalement, on est capable de rassembler des Français autour d'un projet. C'est ça, la politique. C'est comme une entreprise, finalement, ou une association, une ONG. On rassemble des gens autour d'un projet. Le projet du Made in France, pour moi, heureusement qu'il a dépassé cette image du Parisien avec la marinière. Il est devenu un mouvement de société.
Ah oui, complètement.
Et les producteurs s'en emparent, les consommateurs font attention, ils votent avec leur carte bleue tous les jours. Ils votent tous les jours. Tous les jours, je vote chinois, je vote allemand, je vote français, je vote français. Et ça, c'est pour moi une source de satisfaction. Moi, je passe dans la rue, je prends le métro, les gens me disent « Ah, Made in France !» Ça fait plaisir. Ça prouve qu'on est capable de se rassembler autour de grands projets, quels que soient nos origines, nos sensibilités, notre histoire, notre géographie, nos opinions religieuses, politiques, et que sais-je encore. Donc ça veut dire que la France a des ressources pour rebondir.
Oui. Voilà. Justement, j'allais vous poser une question. Est-ce que ce matin, Yannick Jadot, donc d'Europe Écologie Les Verts, a dit que la France était en burn-out démocratique? Est-ce que vous le ressentez, vous qui avez toujours un petit pied dans la politique, même si maintenant vous êtes, vous voulez.
Je suis un homme engagé. Je suis
un homme engagé.
Professionnellement, je suis. Voilà. C'est vrai, engagé dans les entreprises.
Un homme engagé.
Mais je reste un homme engagé et un citoyen préoccupé, en effet.
Ouais, vous êtes
préoccupé.
Il y a un burn-out. Cette violence qu'on voit sur des actions ciblées, alors qu'on aime.
Oui, mais enfin, moi, je suis frappé de voir que la violence, elle est partout.
Ouais.
La violence symbolique du pouvoir, elle est là. Le mépris dans les expressions d'un président de la République. Un président de la République, il doit rassembler les Français dans son action. Il doit jamais les diviser, les opposer, les mépriser.
Mais vous faites allusion
à
quoi ?
Il y a eu ça quand même.
Ouais.
Il y a eu ça quand même. Toutes les phrases du président de la République contre certaines catégories de Français, ça a eu des conséquences considérables. Les gens se sentent humiliés et méprisés par celui qui n'est que le délégataire. Le vrai souverain, c'est le peuple, hein, dans une démocratie. Jusqu'à nouvel ordre. Peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, c'est la Constitution.
On peut se poser la question de savoir si ça va
changer. C'est la Constitution. Qui est le souverain ? Le souverain, c'est pas celui qui est délégataire temporaire et précaire du pouvoir. C'est celui qui, d'où procède la légitimité. Et la légitimité, elle est électorale dans notre pays, elle est élective. Donc le souverain, c'est le peuple. Et d'ailleurs, la Constitution dit bien par le peuple et pour le peuple.
Oui, mais il n'est pas responsable de tout, Emmanuel Macron.
Il est responsable de l'ambiance. C'est quand même, la responsabilité première d'un président de la République de mener le pays. Il le mène là, et aujourd'hui, M. Macron, malheureusement, pour moi, c'est ça mon inquiétude, est la seule personne que Mme Le Pen est en mesure de battre. C'est ça qu'il a réussi à créer. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train d'installer Mme Le Pen au pouvoir. Encore un petit effort, il va y arriver. C'est ça qui me préoccupe. Et donc ça, il faut quand même qu'on... Voilà, moi ça me fait peur. Ça me fait peur.
Oui, j'avais dit, où est la gauche ? Justement, hier soir, il faisait une séance de câlinothérapie avec ses députés ou ex-députés La République En Marche. Il a dit le quinquennat précédent s'est disloqué sur des aventures personnelles, dont la vôtre peut-être, dont la sienne peut-être aussi, du reste.
Mais je crois qu'il parle très bien de lui-même.
C'est vrai, il a raison quand il dit ça.
Moi, j'ai fait ce que j'ai pu et d'ailleurs, je suis parti quand j'étais pas d'accord. Est-ce que c'est un crime ? Je ne crois pas. Je crois que c'est l'honnêteté qui commande d'agir ainsi. Donc, moi, je peux pas faire des commentaires de cette nature parce que tout ça, pour moi, est indépendant de la vie que j'ai aujourd'hui.
Oui, mais comme vous dites, vous restez engagé, vous restez un observateur malgré tout.
C'est pour ça que je vous donne mon sentiment sur la préoccupation que m'inspire la situation du pays.
Il y a un truc qui est quand même assez frappant lorsqu'on regarde un peu à côté. Ce sont des personnalités très fortes qui l'emporte. On voit Boris Johnson, même à Donald Trump. Alors, je ne vais pas vous comparer à eux, vous inquiétez pas, mais vous avez une personnalité très forte, vous dites ce que vous pensez, vous êtes très engagé, on va dire. C'est là où on se demande est-ce qu'il ne faudrait pas que vous reveniez un petit peu. Vous allez me dire non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnalités qui sont qui ne mâchent pas leurs mots.
Écoutez, moi j'ai donné, j'ai eu aussi ma chance, je n'ai pas eu le succès que j'espérais. Je n'ai pas d'agenda politique. Moi, j'ai un agenda entrepreneurial sur lequel je travaille. Pour moi, comme je suis un et indivisible, on ne se refait pas. Je considère que je suis engagé dans les entreprises, sont des entreprises qui transforment très modestement.
Oui, mais
qui transforme la situation, la situation de gens,
notamment dans les territoires.
Créer de l'emploi agricole dans chaque ferme parce qu'on a, on va transformer le lait en glace et créer 2 emplois par ferme, et pas payer au lance-pierre, mais mieux que le SMIC et à 35 heures, c'est important dans le monde rural. Je trouve que c'est concret, c'est bénéfique et tout le monde est gagnant. Voilà.
Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour se réconcilier avec les territoires, pour qu'on mette fin, c'est plus les gilets jaunes, mais maintenant c'est autre chose, mais c'est le même malaise quelque part de la société française. Vous avez même commencé par là, Arnaud Montebourg.
Si on regarde la situation objectivement, vous avez dans l'OCDE, c'est pas que la France, c'est tous les pays de l'OCDE, ce sont les classes moyennes et classes populaires qui ont payé le prix de la crise. C'est pas ceux qui sont dans les classes qui ont les revenus du système financier. Donc ça, c'est le problème. Parce que la crise, elle est venue par la finance et elle a été payée par ceux qui n'ont aucune responsabilité.
Mais maintenant, il faut une solution.
La conséquence, c'est que la répartition de la valeur, de la richesse, s'est faite au détriment de ceux qui travaillent. Il y a eu une espèce de pression mondiale sur le prix du travail partout. On l'a vu en France, mais on le voit partout. Ce n'est pas pour rien que des gouvernements de gauche comme de droite, Johnson conservateur, Sanchez socialiste en Espagne, augmentent tous les deux les salaires à des mêmes niveaux. Ouais. Plus 6. C'est ce qu'il faudra en Europe.
Nous, on a eu plus de 1 chez nous, en France. Les salaires ont augmenté.
Plus 6 en Angleterre. Plus 6 en Angleterre et plus 5, je crois, en Espagne. Non, voilà. Pourquoi ? Parce que le prix du travail n'est pas assez considéré. C'est d'ailleurs le bon. C'est un peu le sens de mon engagement vis-à-vis de l'agriculteur. Il n'est pas payé pour ce qu'il fait. Et on s'est habitué à l'idée qu'il faudrait que l'agriculteur travaille gratuitement parce qu'il fait des heures. Mais où est-ce que ça existe, ça ?
Surtout avec un salaire quand même.
C'est quand même scandaleux.
Oui, un salaire
donc,
terrible.
La question des revenus du travail doit être réexaminée. Et donc, le partage de la valeur des entreprises doit être, je crois, réexaminé. Quand vous avez un Jean-Dominique Sénard qui explique ça.
Patron de Renault.
Lui-même, patron de Renault, mais qui a travaillé sur les entreprises
absolument,
à mission, dans le rapport Nota. C'est une analyse qui est quand même assez consensuelle de dire qu'aujourd'hui, la surrémunération du capital. Ne peut pas continuer, sinon la société va exploser dans l'adhésion à ses fondamentaux.
Oui, mais pour ça, on a besoin de fonds, pas de pension, on a besoin de grands fonds qui puissent investir dans les entreprises.
Mais on les a en France.
Ben non, on n'a pas, non. Ben non, on n'a pas.
J'ai entendu ça.
Il y a BlackRock, hein. Mais
Madame voilà. Chevrillon,
ouais,
je me permets de vous appeler Madame Chevrillon.
Oui, je vous en prie.
Par respect pour vous,
oui,
pour votre
Montbourg,
beau travail.
Allons-y, oui.
Il y a en France des fonds de pension. Nous ne les connaissons apparemment pas, mais pourtant ils sont considérables. Ça s'appelle le contrat d'assurance vie. Vous avez 2000 milliards d'épargne en stock, défiscalisé sur des durées de 8 ans. Ouais. Ça s'appelle un fonds de pension.
Ouais. Mais vous savez
pour quelle raison n'avons-nous pas exigé des compagnies d'assurance qui collectent l'assurance vie?
Parce qu'il faut bien financer le déficit
en contrepartie,
de la France.
Mais
et ne le définit. Du budget de l'État.
Elles ne se contentent pas de cela.
Ah
elles placent leur
largement.
Argent où bon leur semble.
Largement.
Pour une raison simple, pas suffisamment, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a jamais eu de contrepartie, par exemple, dans l'investissement dans les entreprises françaises.
Ouais.
Pourquoi pas?
Ouais. Ben, c'est ce qu'ils essaient de faire. Là, ça fait partie justement.
Nous
partie.
Y voilà.
Voilà, tout à fait.
Nous y voilà.
Voilà, ça c'est au moins. Ben, ça,
mais c'est des fonds de pension, on les a.
Oui,
utilisons-les.
Juste un point. La retraite, vous êtes avocat. La question de la retraite, la réforme des retraites, notamment des avocats, vous les soutenez. Là, ils sont vent debout contre la réforme à point.
Ben, mettez-vous à leur place. D'ailleurs, j'en suis un. Donc, moi, j'ai une partie de retraite.
Question.
J'ai travaillé 8 ans comme avocat. Donc, j'aurai un petit bout de retraite quand j'aurai l'âge de la retraite. Ils ont cotisé, surcotisé. Et je sais à quel niveau. Et on leur pille leurs efforts qui les amènent à une caisse qui, je crois, est bénéficiaire. Donc vous avez un problème d'égalité, de traitement. Et donc, moi, je comprends, mais pas que les avocats. Vous avez un problème d'opacité dans cette réforme. Vous avez un problème de lisibilité sur les prévisions qu'on peut faire. Vous avez un problème, par ailleurs, d'intentionnalité. On a compris que c'était pour faire baisser les pensions des futurs retraités. Donc, et on a un problème de désaccord massif du pays. Et en plus d'amateurisme dans la manière dont tout ça a été fait à travers l'avis du Conseil d'État qui était d'une sévérité exceptionnelle et historique. Bon, donc vous avez quand même tout ça qui concourt à ce que dans un pays comme le nôtre, alors qu'il y a un contrat social fondamental, ce serait normal qu'on se mette d'accord. Il faut prendre le temps. Les Suédois, ils ont mis 10 ans à faire leur réforme et aujourd'hui, 20 ans après, ils sont pas contents.
Ouais, donc
sur la retraite à point.
Il faut prendre son temps
en
tous les cas.
Ouais. Ben, faut trouver un point d'accord, d'équilibre.
Ouais, ouais.
Tout le monde peut pas avoir raison, c'est pas un consensus, mais un compromis avec les forces qui sont pas d'accord.
Ouais.
Ça, c'est l'art de gouverner. Je crois que nous pouvons le demander quand même au pouvoir.
Un compromis en tous les cas. On a bien compris, vous avez raison, c'est pas un consensus, mais un compromis au moins. Merci beaucoup Arnaud Montebourg.
Merci.
Et donc, la mémère, on les a quand?
Fin mars,
fin
chez
mars.
Monoprix pour commencer.
Et ben voilà, fin mars, ça sera pour le début du printemps. Merci beaucoup.
Merci.
Arnaud Montebourg était notre invité. Tout de suite, BFM Business se poursuit. Demain matin, j'ai Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique Lyonnais, CG, il sera mon invité. Et Guillaume Faury, le patron d'Airbus. À demain.